C'est pas la première fois que nous abordons la violence faite aux femmes en situation de handicap, mais les chiffres demeurent inquiétants et cette catégorie est encore sous-représentée par les études, les recherches sur la violence faite aux femmes, surtout les femmes en situation de handicap. Tiens, je vous parlais de chiffres parlants. En 2014, la proportion de femmes avec incapacité qui ont déclaré être victimes de violences conjugales, qu'il s'agisse d'actes de violence physique ou sexuelle, au cours des 5 années précédant le sondage ou l'enquête, ben, on parle du double des femmes comparativement aux autres sans incapacité, donc 6,2 contre 2,7. Alors, Christiane et moi avions envie de revenir sur le sujet, surtout bon, au lendemain du 8 mars, et parce que le gouvernement s'y intéresse depuis quelques mois, et on va le faire avec Karine Mirgiani-Jean-François. Bonjour Karine.
Oui, bonjour.
Vous êtes gestionnaire principal du projet Réseau d'action des femmes handicapées Canada. Rappelez-nous pourquoi on dit que les femmes avec un handicap physique ou intellectuel sont plus vulnérables à la violence conjugale?
Bien, en fait, je pense que l'important de réaliser, c'est qu'il y a présentement 25 % des femmes au Canada qui sont des femmes en situation de handicap.
Wow!
Les handicaps physiques, donc qu'on utilise un fauteuil roulant, des handicaps visuels, qu'on soit aveugle, la surdité, ça inclut également tout ce qui est suspect de l'autisme, santé mentale. Donc, c'est vraiment un large spectre. Et on perçoit rarement qu'on peut être en couple, en fait. C'est un cet ordinaire-là, sans compter l'isolement et la stigmatisation qui sont déjà liés au handicap, fait qu'il est très rare que les femmes en situation de handicap aient l'occasion de parler de leur réalité. Puis, il n'existe pas des programmes par et pour, des groupes de soutien qui ont vraiment été pensés pour les femmes en situation de handicap. Fait que pour nous, quand on pense à ça, au Réseau Action Femmes Handicapées du Canada, c'est que oui, il y a les statistiques qui nous prouvent que les femmes en situation de handicap, en général, sont plus susceptibles de vivre des épisodes de violence conjugale ou des épisodes de violence en général. Mais que pour certaines femmes, ça va encore plus augmenter quand on parle, par exemple, d'handicap intellectuel. C'est pas toujours la même chose.
On l'a déjà mentionné, mais quand même, je pense que ça vaut la peine de parler des facteurs qui augmentent les difficultés de se sortir d'une situation d'abus pour une femme en situation de handicap. Quand je dis on a déjà parlé, c'est pas nécessairement aujourd'hui, là, mais dans le passé, mais ce sont quand même des réalités qui sont trop souvent oubliées ou escamotées par ceux et celles qui pensent au refuge, entre autres.
Exactement. Puis je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a différents, ce qu'on appelle des facteurs de risque, qu'on va nommer, que ce soit comme l'isolement social ou l'attitude négative de la société, la difficulté d'accès aux services, la peur qui sont liées aussi au dévoilement de la violence. Quand on pense qu'on peut être en couple avec une personne dans la même communauté que nous, bien, ça va se savoir.
Ouais.
Puis sans
Parce que pour
également...
bien des communautés, ce sont des communautés quand même un peu tissées serrées.
Oui, exactement. Pour beaucoup de femmes sourdes avec qui nous avons travaillé dans le passé, c'est réellement un enjeu de nommer cette réalité de violence dans leur couple, de se sentir potentiellement isolée suite à cette dénonciation-là, mais aussi de ne pas avoir accès à des services de qualité pour pouvoir sortir de cette traumatisation-là.
Je pense entre autres aux femmes sourdes. Je veux dire, les gens se connaissent bien souvent et c'est difficile de dénoncer parce que on a peur d'être mis à la rue, que ce soit à cause de la pauvreté, une difficulté financière, une dépendance physique même.
Bien, c'est ça, puis ça fait partie de la violence. Nous autres, souvent, quand on parle de violence conjugale, en fait, quand le gouvernement pense à la violence conjugale, il pense vraiment à une relation purement amoureuse, romantique, sexuelle, mais il y a aussi des relations que nous, on considère comme de la violence conjugale, de la violence qui se déroule au foyer, par des personnes qui sont techniquement là pour soutenir, donc de pas avoir accès à ton respirateur, de pas recevoir la médication qui est nécessaire, de pas pouvoir avoir droit au changement de couche, par exemple. Ça, c'est d'autres manières, en fait, d'exercer de la violence psychologique et
quand
de la violence
on est
physique.
Rendu là, Karine, là, c'est parce qu'on fait dur comme individu, mais vous dites que ça existe.
Bien, ça existe. existe. Wow. Puis c'est beaucoup dans une question de pouvoir. Et puis ça, c'est la chose qui est vraiment importante à réaliser, c'est que on est rarement seul à vivre ces actes de violence-là. Mmh. Souvent, on pense qu'on est les seuls. L'isolement social, le handicap nous isole, mais en plus de ça, la violence isole encore plus. Le fait de prendre la parole, de dénoncer ça, même si c'est difficile, c'est aussi une manière de reprendre du pouvoir dans notre vie.
Et d'empêcher que monsieur ou madame ne fasse la même offense à quelqu'un d'autre par la suite, là.
Exactement, parce que on sait qu'on n'a pas toujours les meilleures formations par rapport à c'est quoi une relation égalitaire. Là, présentement, il y a toute la question du cours d'éthique et culture religieuse. Il y a le cours d'éducation à la sexualité qui est en train de revenir dans les écoles primaires et secondaires au Québec présentement. Mais pendant longtemps, on n'a pas parlé de ça. Et pour beaucoup de jeunes en situation de handicap, s'ils sont fait exclure, en fait, des peu de cours qui existaient à l'époque. Donc, comment est-ce qu'on bâtit une relation saine égalitaire? Comment est-ce qu'on reconnaît quand elle n'est pas saine? Puis aussi savoir mais quelles ressources existent qui sont adaptées, qui vont comprendre nos réalités. Et ça, c'est vraiment l'enjeu principal. Puis c'est pour ça qu'on a été invité il y a 2 semaines pour parler des enjeux d'édite des femmes en contexte de vulnérabilité au comité de travail qui examine le plan d'action sur la violence conjugale au niveau du Québec, donc avec tout plein de ministères, des chercheurs, la Ville de Montréal, le service de police de la Ville aussi, ainsi que quelques regroupements de maisons d'hébergement en violence conjugale.
Karine Mirgiani, Jean-François est gestionnaire principal du projet Réseau d'action des femmes Canada. Est-ce qu'on a une idée de ce qui sera inclus dans ce plan d'action gouvernemental ou il est beaucoup trop tôt?
Bien, en fait, le plan d'action a été adopté sous l'ancien gouvernement libéral. Okay. Présentement, le gouvernement caquiste est en train de revoir parce qu'en fait, on réalise que ce plan n'est pas suffisant.
Étant donné
le nombre de femmes de femmes qui sont pas seulement sans handicap, mais de femmes qui ont été assassinées par leur ex-conjoint ou conjoint dans les derniers mois. Donc, c'est en train de voir comment est-ce qu'on peut le bonifier. Il y a une mesure qui parle des personnes en situation de handicap, mais dans une perspective de faire de la recherche, puis il faut consulter et voir, donc d'organiser un forum qui devra avoir lieu dans la deuxième, peut-être d'ici un an ou deux, selon la personne qui présentait le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Ouais. Y a-t-il des règles ou des normes obligatoires lorsqu'il est question de refuge, à savoir de le rendre accessible, de s'assurer qu'il y aura une personne en LSQ ou...
Malheureusement, c'est vraiment pas le cas. Puis ça, pour nous, c'est un des enjeux majeurs qu'on a regardé parce que la législation, les politiques assument que toutes les femmes ont droit au service, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les maisons ne sont pas outillées, par exemple. Ce n'est pas le cas parce qu'elles n'ont pas les subventions. Et ce n'est pas le cas parce qu'elles ne voient pas ces femmes. Elles ne voient pas les femmes en situation de handicap qui essaient d'utiliser leur service et par conséquent, ne voient pas l'intérêt de dépenser de l'argent, de se former.
Mais vous et moi comprenons que tu ne peux pas les voir si tu n'es pas accueillante pour elles. S'il y a des marches, tu n'auras pas personne qui va aller en fauteuil roulant chez vous.
Exactement, mais aussi non seulement ça, mais il faut que c'est des adresses confidentielles.
Bien sûr,
il
faut le trouver, ce refuge-là.
Mais oui, on peut pas, le transport adapté, on peut pas laisser, il faut être entièrement autonome, parce que si on n'est pas autonome pour faire des transferts...
Oui, puis il faut savoir 24 heures d'avance qu'on va se faire battre demain à 18h06 pour que le transport nous ramasse à 18h30.
Exact. Et ça, c'est un autre enjeu majeur. C'est arrivé des exemples, on a entendu vraiment des exemples d'horreur d'une femme qui appelle et qui sont dit « OK, on a une place à telle place », mais que ni le service de police, ni les ambulances, ni le transport à la T, il n'y a aucun taxi, il n'y a personne qui est capable d'aller la chercher chez elle. Et donc, par conséquent, ne peut pas avoir accès jusqu'à peut-être 24 heures plus tard à une chambre qui serait adaptée. Et ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est que beaucoup de ces ressources-là ne sont pas adaptées en LSQ.
Ouais.
Donc, la seule manière de consulter, puis ça, c'est pour les personnes aussi qui ont des femmes qui ont des enjeux autour de la communication, que ce soit parce qu'elles sont sourdes, parce qu'elles sont très anxieuses, sur les femmes de stade d'autisme, il faut appeler pour avoir des services. Et pour beaucoup de femmes, c'est plus facile de texter, d'envoyer un courriel. Mais on ne sont pas nécessairement adaptés à ces nouvelles technologies-là.
Puis t'as pas toujours le temps de passer par le service relais vidéo, là, t'appelles, faut attendre un peu parce que le préposé est occupé avec un autre appel.
Exactement.
Et là, là.
Et donc, ça fait partie des choses aussi que nous, on trouve ça important, c'est d'avoir une flexibilité dans la manière dont on offre des services. Il y a certaines maisons d'hébergement qui l'ont compris. Et au lieu d'exiger que les femmes sortent de chez elles, une femme qui est agoraphobe, par exemple, qui est incapable de sortir de chez elle, ben, on va dire, ben, on va t'offrir des services, envoie-nous des courriels, appelle-nous. Si ça, tu es capable de faire, on va t'accompagner où tu es rendu. Et quand tu seras prête à venir pour des services externes ou un séjour en maison d'hébergement, on va être là pour toi. Mais c'est bâtir cette confiance-là, c'est des fois aller au-delà de leur protocole habituel pour pouvoir accueillir davantage de femmes, mais aussi faire savoir et faire connaître que ces services-là sont disponibles et non pas juste de mettre un numéro de téléphone, appelez-nous pour prendre rendez-vous.
Karine, il y a d'autres rencontres à venir bientôt qui vont continuer de faire évoluer le dossier positivement?
Alors, c'était la première rencontre du comité de travail-là. Nous, on était des invités seulement pour une période. Bon. Il va y avoir une autre rencontre dans la prochaine année. Techniquement, chacun des ministères. Okay. Oui, c'est pas un comité qui se réunit très fréquemment. Et c'est un comité qui est beaucoup envers les ministères en général. Donc, nous, on va potentiellement être invités. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai rappelé à la fin. C'est de s'assurer de qui est autour de la table et qui n'est pas là. Parce que en tant que femme en situation de handicap, on n'est pas présente. Nos expériences ne sont pas représentées.
Bien sûr.
C'est important de s'assurer que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui sont autour de ces mêmes tables-là et qui décident des solutions qui pourraient fonctionner, mais pas pour tout le monde.
Nous sommes d'accord, Karine Mirjiani, Jean-François, qui est, je le disais, gestionnaire principal du projet Réseau d'action des femmes handicapées Canada. Merci beaucoup, Karine.
Bien, merci à vous.